Chapitre 37. Comme la dernière fois, nous nous arrêtons en route pour acheter de l'eau minérale et des provisions dans un supermarché, puis nous gravissons le chemin de montagne qui mène à la cabane. À l'intérieur, rien n'a changé depuis notre départ, il y a une semaine. J'ouvre les fenêtres pour aérer et je range les provisions.
« Je voudrais faire un somme avant de repartir !»
dit Oshima qui bâille à se décrocher la mâchoire, les mains devant la bouche.
« Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière !»
Il est sans doute exténué car, à peine a-t-il installé le matelas par terre, qu'il se fourre sous la couette, se tourne vers le mur et s'endort. Je fais chauffer de l'eau minérale et lui prépare du café pour la route du retour. Je le verse dans une bouteille thermos. Ensuite, je prends deux bidons en plastique et vais les remplir au ruisseau. Le paysage est le même que la dernière fois. Le parfum des herbes, le chant des oiseaux, le murmure de la rivière, le vent qui siffle entre les troncs, l'ombre tremblante des feuilles, rien n'a changé. Les nuages qui filent au-dessus de ma tête me semblent tout proches. Revoir tout cela m'emplit de nostalgie, comme si je retrouvais une partie de moi-même. Pendant qu'Oshima fait sa sieste, je m'installe sous le porche pour lire un livre sur la campagne de Russie de Napoléon en 1812. Quelques 400 000 soldats français décimés lors d'une guerre gigantesque et absurde dans un pays immense dont ils ignoraient tout. Les batailles, naturellement, étaient d'une indicible cruauté, mais les médecins, comme les médicaments, étaient insuffisants et la plupart des soldats grièvement blessés mouraient sur place dans d'atroces souffrances. Plus nombreux encore furent ceux qui moururent de froid ou de faim, ce qui était tout aussi horrible. Assis sous le porche, j'écoute les oiseaux chanter en sirotant une tasse de tisane fumante, et je pense à la campagne de Russie et aux tempêtes de neige qu'enduraient les soldats. J'ai lu à peu près un tiers de mon livre, quand, pris d'une soudaine inquiétude, je me lève et vais voir si Oshima dort toujours. Même s'il est profondément endormi, la cabane me semble un peu trop silencieuse, comme s'il n'y avait personne à l'intérieur. Mais non. La couette remontée jusqu'au-dessus de la tête, Oshima respire paisiblement. En m'approchant, je vois ses épaules se soulever et s'abaisser régulièrement. Debout, à côté de lui, je regarde un moment ses clavicules. Puis tout à coup, je me souviens qu'Oshima est une femme. Je l'oublie souvent. La plupart du temps, je pense à lui comme à un homme. C'est sans doute ce qu'il souhaite. Mais quand il dort, on dirait que sa nature féminine reprend tout d'un coup le dessus. Je retourne m'asseoir sous le porche et poursuis ma lecture. Mon esprit reprend à cette route des faubourgs de Smolensk, jonchée de cadavres gelés. Lorsqu'Oshima se réveille au bout de 2 heures, il va immédiatement vérifier que sa voiture est toujours là. La carrosserie verte est tellement couverte de poussière à cause de la route de montagne qu'elle en est presque blanche. Oshima s'étire de tout son long, puis s'assied près de moi.
« La saison des pluies n'est pas très forte cette année, » dit-il en se frottant les yeux. « Il pleut à peine. Ce n'est pas bien. On risque d'avoir des restrictions d'eau à Takamatsu cet été. »
Je lui demande si Mademoiselle Saeki sait que je suis ici. Il secoue la tête.
À vrai dire, elle ignore tout. Elle ne sait même pas que j'ai une cabane dans la montagne. Mais moins elle en saura, moins elle aura besoin de mentir à la police. Et moins elle sera mêlée à tout ça.
Je hoche la tête. Je préfère ça moi aussi.
Elle a déjà eu sa part d'ennui dans la vie, dit Oshima.
Je lui ai dit que mon père a été assassiné récemment, mais je ne lui ai pas dit que j'étais recherché par la police.
Je ne l'ai pas mentionné non plus, mais je me demande si elle ne s'en doute pas. Elle est intelligente, tu sais. Je lui dirai demain que tu as dû partir brusquement et que tu m'as demandé de lui dire au revoir de ta part. À mon avis, elle ne posera pas de questions. Si je ne lui donne pas davantage d'explications, elle hochera la tête sans rien dire. « Et ce sera tout. »
J'acquiesce en silence.
« Mais toi, tu as envie de la voir, j'imagine.
ajoute Oshima. Je ne réponds pas. Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens, et la réponse est évidente de toute façon.
Cela me fait de la peine pour toi, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux que vous preniez un peu de distance.
Qui sait, peut-être que je ne pourrai plus jamais la revoir, dis-je.
C'est possible, reconnaît Oshima après avoir réfléchi un moment. C'est un lieu commun, mais les choses n'existent pas tant qu'elles ne se sont pas produites. Et souvent d'ailleurs, elles ne sont pas ce qu'on croit.
Je me demande ce que ressent Mademoiselle Saeki en ce moment.
À quel sujet ?
Demande Oshima en plissant les paupières pour me scruter. Eh bien, si elle pense qu'on ne se reverra peut-être jamais, est-ce qu'elle ressent la même chose que moi ?
Oshima sourit. Pourquoi me demandes-tu ça à moi ?
Parce que moi-même, je n'en ai pas la moindre idée. Jusqu'ici, je n'avais jamais été amoureux. Je n'avais jamais désiré personne. L'expérience est nouvelle pour moi. Et être désiré par quelqu'un, c'est aussi une expérience nouvelle.
Tu es en pleine confusion, alors ?
Je hoche la tête. Exactement.
Tu te demandes si l'autre éprouve les mêmes sentiments que toi, avec la même force, la même pureté.
Je secoue la tête. C'est trop pénible d'y penser.
Oshima reste silencieux un moment, les yeux fixés sur la forêt, les bras croisés derrière sa nuque.
Les oiseaux volent de branche en branche.
Je comprends ce que tu ressens, dit-il. Néanmoins, c'est à toi d'y réfléchir et d'en tirer les conclusions. Personne ne peut le faire à ta place. C'est cela, aimer, Kafka Tamura. Tu es seul à avoir ces images merveilleuses de l'être aimé qui te font suffoquer, mais tu es aussi le seul à devoir t'aventurer dans la forêt obscure. C'est à ton esprit et à ton corps d'endurer tout cela.
À 2h30, Oshima remonte dans son cabriolet et s'en va.
Si tu économises les provisions, tu peux tenir une semaine, me dit-il. D'ici là, je serai revenu. Si jamais les circonstances m'en empêchent, j'enverrai mon frère à ma place, avec un nouveau stock de nourriture. Il habite à 1 heure d'ici, et je lui ai dit que j'avais un visiteur. Aussi, ne t'inquiète pas, d'accord ?
D'accord.
Et puis, je t'ai déjà prévenu, mais je te le répète. Fais extrêmement attention quand tu vas dans la forêt. Si tu t'y égarais, tu ne pourrais plus en ressortir.
Je serai prudent.
Juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, un bataillon de l'armée impériale s'est entraîné dans ces montagnes. Il reconstituait les combats avec l'armée soviétique dans les forêts de Sibérie. Je t'en ai déjà parlé, non ?
Non.
Parfois, j'oublie de mentionner certaines choses cruciales, dit Oshima en se tapotant la tempe d'un doigt.
Pourtant, les environs ne ressemblent pas aux forêts sibériennes, fais-je remarquer.
C'est sûr. Ici, il n'y a que des arbres à larges feuilles et en Sibérie, ce sont plutôt des conifères. Mais l'armée ne s'embarrasse pas de ce genre de détails. L'idée, c'était d'entraîner les hommes au combat en leur faisant faire de longues marches forcées dans les bois, en équipement militaire et avec tout le barda sur le dos.
Oshima se verse une tasse du café que j'ai préparé tout à l'heure, ajoute un peu de sucre. Il a l'air de se régaler.
L'armée avait envoyé une lettre de requête officielle à mon grand-père pour qu'il leur prête son terrain. Et mon grand-père leur a répondu « Vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce bout de forêt que personne n'utilise. » Les recrues ont dû monter à pied la route que nous avons gravie en voiture. Ensuite, ils se sont enfoncés dans la forêt. Mais quand les exercices ont été terminés et qu'ils ont fait l'appel, ils se sont aperçus qu'il manquait 2 soldats. Ils avaient disparu pendant l'entraînement avec tout leur équipement. 2 jeunes soldats qui venaient tout juste d'être mobilisés. Naturellement, une grande battue a été organisée pour les retrouver. Mais ils n'ont jamais réapparu.
Oshima boit une gorgée de café, puis reprend.
Personne n'a jamais su s'ils s'étaient perdus dans la forêt ou s'ils avaient déserté. Mais la forêt est incroyablement dense de ce côté et on n'y trouve rien à manger. Tu sais, il y a un autre monde à côté du nôtre. Tu peux t'y aventurer et en revenir sain et sauf si tu fais attention. Mais Si tu dépasses un certain point, tu n'en reviens jamais. Tu ne trouves plus le chemin du retour. C'est un labyrinthe. Tu connais l'origine du labyrinthe ?
Je secoue la tête. On pense que ce sont les habitants de la Mésopotamie antique qui ont eu les premiers l'idée du labyrinthe. Ils lisaient le futur dans des entrailles d'animaux, et sans doute parfois d'hommes, sacrifiés. Ils en observaient les dessins complexes qui leur permettaient d'interpréter l'avenir. À l'origine, la forme du labyrinthe s'est inspirée de celle des boyaux. Autrement dit, le principe du labyrinthe existe à l'intérieur de toi. Et il correspond à un labyrinthe extérieur à toi.
C'est une métaphore ?
Exactement. Une métaphore à double sens. Ce qui est extérieur à toi, c'est la projection de ce qui est intérieur. Et l'intérieur est la projection de l'extérieur. Souvent, quand tu mets le pied dans un labyrinthe extérieur, c'est que tu entres aussi dans un labyrinthe intérieur. Dans la plupart des cas, c'est très dangereux.
Comme dans le conte d'Hänsel et Gretel ?
Exactement. La forêt est pleine de pièges. Et tu auras beau prendre toutes les précautions du monde, des oiseaux au regard perçant viendront picorer les miettes de pain que tu avais laissées derrière toi pour retrouver ton chemin.
Je serai prudent, dis-je.
Oshima baisse la capote de son cabriolet, puis s'installe au volant. Il met ses lunettes de soleil, pose la main sur le levier de vitesse. Le bruit familier du moteur résonne dans la forêt. Il repousse sa mèche d'un geste, me fait un petit signe de la main, et le voilà parti. Les tourbillons de poussière qui s'élèvent derrière la voiture sont rapidement dispersés par le vent. Je rentre dans la cabane, m'allonge à mon tour sur le matelas, ferme les yeux. Réflexion faite, moi non plus je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Je sens encore les traces de la présence d'Oshima sur ce matelas et cet oreiller. Ou plutôt, les traces de son sommeil. Je me pelotonne dedans et m'endors. J'ai dû dormir une demi-heure à peine quand un grand bruit à l'arrière de la cabane me réveille en sursaut. On dirait qu'une branche vient de se fracasser à terre. Je jette un coup d'œil autour de moi, mais rien ne semble avoir changé dans la pièce. C'est sans doute un de ces bruits mystérieux qui émanent de la forêt de temps à autre. Ou peut-être était-ce un rêve ? Je ne sais plus très bien où se situe la frontière. Je sors m'asseoir sur le perron et lis jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Je mange en silence le repas tout simple que je me suis préparé. Après avoir rangé la vaisselle, je m'enfonce dans le vieux canapé et je pense à Mademoiselle Saiki.
Comme dit Oshima, Mademoiselle Saiki est une femme intelligente, dit le garçon nommé Corbeau. Et puis, elle est unique.
Il est assis à côté de moi sur le canapé, exactement comme avant, dans le bureau de mon père.
Elle est très différente de toi. Elle est très différente de toi. Elle a surmonté beaucoup d'épreuves jusqu'à présent. Des épreuves inhabituelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle sait beaucoup de choses que tu ignores. Elle a connu des émotions que tu n'as pas encore goûtées. Plus les gens avancent dans la vie, plus ils font la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Elle a pris des décisions dont elle a dû constater les effets. Ce n'est pas le cas pour toi, n'est-ce pas ? Toi, finalement, tu n'es qu'un enfant qui n'a fait que quelques expériences limitées au sein d'un monde étroit. Tu t'es efforcé de devenir plus fort, et dans une certaine mesure, tu as réussi. Mais maintenant, tu es dans un monde nouveau, face à des situations nouvelles, et tu te sens complètement perdu. Après tout, tu viens de découvrir toutes ces choses.
Tu es complètement déconcerté. L'une des questions qui te tourmente est de savoir si les femmes éprouvent du désir sexuel.
Théoriquement, oui, bien sûr. Même toi, tu sais ça. Mais tu n'as pas la moindre idée de la façon dont il se manifeste chez elles, ni de ce qu'elles ressentent. Ton désir à toi fonctionne très simplement.
Mais le désir des femmes, et particulièrement celui de Mademoiselle Saeki, reste un mystère. A-t-elle éprouvé le même plaisir physique que toi pendant que vous faisiez l'amour? Ou bien ces sensations ont-elles été totalement différentes? Plus tu réfléchis, et plus tu voudrais ne pas avoir 15 ans. Tu te sens même désespéré. Si seulement tu en avais 20, ou même 18, tu serais sans doute capable de saisir le sens des mots et des gestes de cet être appelé Mademoiselle Saeki. Et tu pourrais y réagir correctement. Tu vis quelque chose de merveilleux, de si merveilleux que cela ne t'arrivera peut-être pas deux fois. Et pourtant, tu es incapable de comprendre vraiment à quel point c'est beau. Et cela te désespère. Tu essaies d'imaginer ce qu'elle fait en ce moment. C'est lundi, la bibliothèque est fermée. Comment occupe-t-elle ses jours de congé? Tu l'imagines seule chez elle. Elle lave le linge, prépare la cuisine, fait le ménage, sort faire des courses. Tu visualises les scènes une par une. Plus tu l'imagines, plus tu as du mal à rester immobile sur ta chaise. Tu voudrais te transformer en corbeau vigoureux et sauvage et t'en aller à tire-d'aile, voler par-dessus les montagnes, te percher devant la fenêtre de sa chambre et la regarder. Sans fin. Mais peut-être est-elle allée à la bibliothèque pour te voir. Elle frappe à la porte et n'obtient pas de réponse. La chambre n'est pas fermée à clé. Elle entre, se rend compte que tu n'es pas là. Le lit est fait. Tes affaires ont disparu. Elle se demande où tu es. Elle attendra peut-être un moment dans ta chambre, espérant ton retour. Alors, sans doute, elle s'assiera devant le bureau et regardera Kafka au bord de la mer. Elle pensera peut-être au passé qu'évoque ce tableau. Mais elle aura beau attendre, tu ne reviendras pas. Elle finira par renoncer et quitter la pièce. Elle marchera jusqu'au parking, montera dans sa Golf, démarrera. Mais tu ne veux pas qu'elle s'en aille comme ça. Alors, tu seras là. Tu la serreras dans tes bras, tu voudras comprendre le moindre de ses gestes. Mais non, tu n'es pas là-bas, auprès d'elle. Tu es seul, dans un endroit coupé du monde. Tu t'assieds sur le lit, éteins la lumière, espère voir Mademoiselle Saeki apparaître dans la pièce, celle d'aujourd'hui, ou celle de 15 ans. Peu importe qu'elle soit un fantôme ou une hallucination, tu veux la voir, c'est tout. Tu veux qu'elle soit là, près de toi. Et à cette pensée, il te semble que ta tête va exploser, ton corps éclater en morceaux. Mais tu as beau attendre et espérer, elle n'apparaît pas. Un vent léger souffle au dehors et des oiseaux de nuit crient de temps en temps. C'est tout. Tu retiens ton souffle. Concentre ton regard dans le noir. Tu écoutes le vent, essaie de trouver un sens au bruit que tu entends, d'y découvrir un signe. Mais autour de toi, il n'y a que ces couches de ténèbres profondes. Tu finis par renoncer, tu fermes les yeux et t'endors.